Voici une question dont la réponse requiert une attention bien spéciale de notre part. Est-ce que Dieu est parfois injuste dans ses décisions? La parole de Dieu va nous donner une réponse que nous avons tous besoin d'entendre aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a encore de très bonnes questions à poser aux Saintes Écritures aujourd'hui. Certaines d'entre elles sont peut-être vos questions. Les voici. Quels sont les éléments qui identifient les Israélites? Est-ce qu'il existe une descendance spirituelle d'Israël? Qui sont les enfants de la promesse parmi le peuple d'Israël? Est-ce qu'il y a parfois de l'injustice dans les choix que Dieu fait? Est-ce que Dieu sauve une personne parce qu'elle est meilleure que les autres? Pourquoi est-ce que Dieu exerce sa miséricorde? Est-ce que ceux qui iront en enfer auront choisi d'y aller? Restez avec nous. Le pasteur Jean Joly est prêt à nous enseigner tout le conseil de Dieu en réponse à nos questions. Je crois qu'on va tous acquérir beaucoup de connaissances en peu de temps aujourd'hui. Demandons à Dieu de nous éclairer, de nous aider à bien comprendre sa merveilleuse parole. Prions. Ô Seigneur, tu es lumière, et on te demande de d'éclairer nos vies à travers ta parole aujourd'hui. De nous faire saisir le sens de tes belles écritures. Fortifie-nous par tes écritures, mon Dieu. Enseigne-nous. On t'écoute. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons introduit la deuxième section de l'Épître de Paul aux Romains, soit les chapitres 9 à 11. Nous avons vu que cette section comprenait un élément psychologique, l'amour de Paul pour sa nation. Nous avons aussi noté qu'il y avait un élément historique, puisque l'Église mère à Jérusalem était entièrement formée de Juifs. Finalement, il y avait un élément doctrinal ou d'enseignement. Nous avons vu que Paul aimait ses frères dans la chair, et s'il avait pu, il aurait sacrifié sa propre vie pour eux. Cependant, cela était impossible. Nous avons aussi commencé à examiner les 8 éléments qui identifient un Israélite. Nous avons eu le temps d'en examiner 3 à la dernière émission. L'adoption, la gloire et l'alliance. Dieu a adopté la nation d'Israël. Sa présence visible se manifestait dans le tabernacle et il a traité des alliances avec Israël. Aujourd'hui, nous allons voir 5 autres éléments qui distinguent les Israélites. Chers amis, commençons notre lecture de Romains chapitre 9, les versets 4 et 5. Qui sont Israélites? À qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches? Et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses? Dieu bénit éternellement. Amen. Maintenant, continuons avec le 4e élément, la loi. La loi mosaïque fut donnée à la nation d'Israël. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Exode, chapitre 19, verset 5. Dans Exode, chapitre 31, cette fois, verset 13, Dieu dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, « Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Ceci fut donné pour la nation d'Israël. On m'a déjà demandé pourquoi est-ce que je n'observe pas le sabbat. Je ne le fais pas parce que je ne fais pas partie de la nation d'Israël. D'autres m'ont demandé si Dieu avait changé le jour du sabbat. Dieu n'a pas changé le jour du sabbat, mais il nous a changés. Nous sommes en Jésus-Christ, et ceci est une nouvelle relation intime. À Israël, il a donné la loi mosaïque. Le service de Dieu est le cinquième élément qui distingue les Israélites. Ceci a trait à l'adoration dans le tabernacle et le temple. La nation devait être un royaume de prêtres. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Exode chapitre 19, verset 6. La nation a failli à sa tâche, mais Dieu n'a pas abandonné son objectif, que la nation devienne une nation de prêtres. Dieu a choisi la tribu de Lévi pour entretenir le tabernacle et y faire le service. Puis, c'est au temple que la tribu exerça ses fonctions. Lors du millénium, la nation d'Israël sera de nouveau les prêtres de Dieu sur cette terre. Sixième élément, les promesses. L'Ancien Testament est rempli de promesses faites à la nation d'Israël. Dieu a dit à Josué, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Josué, chapitre 1, verset 2. Les enfants d'Israël devaient avoir la possession du pays. Lorsque le Seigneur Jésus viendra régner, le pays sera très fertile. Septième élément, les pères. Ce sont Abraham, Isaac et Jacob. Huitième élément, le Christ, le Messie. Le Messie est venu dans la chair. Lorsqu'il y est venu, il est né juif. La Samaritaine, au puits, a affirmé qu'il était juif, dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, verset 9. Paul fait attention de préciser que nous le connaissons plus selon la chair. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons plus de cette manière. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16. Paul identifie le Seigneur Jésus à Dieu. Pour Paul, Jésus est Dieu fait homme. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 14, nous lisons, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Le Seigneur Jésus est venu vers la nation d'Israël sous forme d'un petit bébé. La Samaritaine au puits a vu qu'il était juif, et elle était mieux placée que les érudits contemporains bien assis dans leur fauteuil de bureau à l'université. Peut-être faudrait-il séparer Christ, le Messie, des sept autres éléments, parce qu'il est le plus important de tous. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Hébreux, chapitre 2, verset 16. Nous avons précisé ce qu'était la nation d'Israël d'une autre époque. Maintenant, voyons ce qu'était la nation au temps de Paul et ce qu'elle est aujourd'hui. Romains, chapitre 9, verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Il existe une descendance naturelle d'Israël ainsi qu'une spirituelle. Voilà des paroles étranges. Ce ne sont pas tous ceux qui descendent d'Israël qui sont des vrais Israélites. Les Juifs du temps de Paul se sont demandé pourquoi les Juifs n'avaient pas accueilli le Seigneur Jésus de tout leur cœur, vu qu'ils étaient le peuple élu. N'est-ce pas un échec de la part de Dieu? Paul a déjà répondu en partie à cette question au chapitre 3. Maintenant, Paul distingue les descendants naturels des descendants spirituels. Il y eut toujours un reste, et ce reste, naturel ou non, fut la descendance spirituelle. C'est une distinction qui se fait parmi la nation d'Israël, et cela n'inclut pas les païens convertis. Ce n'est pas Dieu qui a échoué, mais plutôt le peuple. Les promesses de Dieu étaient inconditionnelles. Verset 7. Et, pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il y dit, « En Isaac sera nommé pour toi une postérité. » Ce verset cloue le bec à ceux qui désiraient s'opposer à Paul. Si la postérité était strictement déterminée par la descendance naturelle, elle comprendrait les descendants d'Ismaël, de Madian et d'Ésaü. ces trois personnes furent les pères de différentes nations. Être un descendant naturel d'Abraham ne faisait pas automatiquement de quelqu'un un héritier de la promesse. Rappelez-vous que les Juifs ont dit au Seigneur Jésus, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Jean chapitre 8, verset 39. Jésus leur dit aussi, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Jean chapitre 8, verset 44. Revenons à notre texte. Romains chapitre 9, verset 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Les enfants de la promesse sont la postérité d'Israël. L'apôtre Paul fait une distinction nette entre les élus et les non-élus de la nation d'Israël. Les enfants de la chair ne sont pas les enfants de Dieu. Les enfants de la promesse sont considérés comme la postérité d'Israël. Dans le livre des Actes, chapitre 21, verset 20, Luc dit, « Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. » Des milliers de Juifs se sont tournés vers le Seigneur Jésus après sa mort et sa résurrection. C'étaient eux les élus, et Paul les a toujours appelés « Israël ». Dans l'Apocalypse, alors que le Seigneur s'adresse à une église à la fin du premier siècle, il lui a dit, « Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas. » Apocalypse, chapitre 3, verset 9. Autrement dit, il affirmait que ces juifs ne fréquentaient pas une synagogue qui l'adorait, mais plutôt une synagogue qui vénérait Satan. Ce message fut transmis à plusieurs églises. Verset 9. Voici, en effet, la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. Les enfants de la promesse ne sont pas ceux qui croient en quelque chose. Isaac n'a pas cru avant de naître, mais la postérité lui fut promise. Dieu a fait une promesse, et il l'a accomplie. Maintenant, nous arrivons à des énoncés forts. Verset 10. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac, notre père. Isaac et Rebecca sont un exemple de l'élection divine. Verset 11. Car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il était possible de proposer une explication pour le rejet d'Ismaël. Mais ce n'est pas le cas avec les enfants d'Isaac et de Rebecca. Dieu a rejeté l'aîné, à qui devaient revenir certains privilèges, et il a choisi Jacob. Ni l'un ni l'autre n'avait fait de bien ou de mal au moment que Dieu a exercé son choix. Le choix fut fondé sur la volonté de celui qui appelle, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste. Cependant, je tiens à vous préciser que ces versets ne parlent pas d'un appel au salut. Verset 12. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. Cette citation est tirée de Genèse, chapitre 25, verset 23. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Verset 13. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Dieu fait des choix selon sa volonté souveraine. Ce verset est une citation du dernier livre de l'Ancien Testament, soit Malachie chapitre 1 verset 2 et 3. Ce verset fut écrit après que les deux garçons eurent vécu et que deux nations furent sorties d'eux, soit environ 2000 ans plus tard et beaucoup d'eau avait coulé sous les ponts depuis. Certains se demandent pourquoi Dieu a haï Ésaü. En fait, on pourrait plutôt se demander pourquoi Dieu a aimé Jacob. nous pouvons comprendre le rejet d'Ésaü, qui ne craignait pas Dieu, en fait qui a méprisé le droit d'aînesse. Il était un homme orgueilleux, et de lui est sorti Édom, une nation qui a rejeté Dieu. C'est facile de comprendre le rejet d'Ésaü, mais pourquoi avoir aimé Jacob? Dieu a fait un choix selon sa volonté souveraine. Verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. Absolument pas. L'homme naturel se rebelle contre la souveraineté de Dieu. Si Dieu fait un choix, l'homme conclut immédiatement qu'il est injuste. Pourquoi? Il arrive que nos politiciens fassent des erreurs de jugement. Malgré cela, ils se font réélire, et parfois avec des majorités solides. Nous ne mettons pas toujours en question le jugement des politiciens, mais nous contestons celui de Dieu. Mes amis, même si nous ne pouvons pas toujours sonder les faits et gestes de Dieu, ayons confiance qu'il agit avec justice. Nous ne pouvons pas contourner la doctrine de l'élection, ni la réconcilier avec le libre arbitre de l'homme. Les deux sont vrais. Nous sommes dans l'univers de Dieu, et il est souverain. Je ne suis qu'une petite créature minuscule, et il pourrait m'ôter la vie en un instant. Est-ce que je vais oser remettre en question les décisions de Dieu? Ce serait une rébellion inadmissible. Je m'incline devant mon Créateur et mon Rédempteur, sachant qu'il fait toujours un choix juste. Si vous n'aimez pas ce que Dieu fait, pourquoi ne pas partir de cet univers et vous en créer un? Ainsi, vous pourriez faire des lois. Tant que vous êtes dans l'univers de Dieu, vous devez accepter ses lois. L'homme doit s'incliner devant Dieu et dire « Il n'y a point d'injustice en lui ». Citation de l'Évangile selon Jean, chapitre 7, verset 18. Revenons à l'Épître aux Romains, chapitre 9, verset 15. « Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Rappelez-vous, lorsque Moïse a demandé à Dieu pour voir sa gloire, en fait, Dieu lui a répondu « Je vais te la montrer, Moïse, mais ce n'est pas parce que c'est toi que je le fais. » Cependant, Moïse était un personnage important. Dieu l'avait établi pour guider son peuple dans le désert. Dieu dit « J'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je vais faire cela pour toi, non parce que tu es Moïse, mais parce que je suis Dieu. » Savez-vous pourquoi Dieu m'a sauvé? Pas parce que je suis Régent Joly, mais parce qu'il est Dieu. Il a fait le choix et je m'incline devant lui. Verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Dieu n'exerce pas sa miséricorde en fonction de la volonté humaine, ni en récompense à des œuvres humaines. La volonté de l'homme et ses œuvres ne sont pas ce qui motive Dieu à exercer sa grâce. L'homme pense que Dieu lui jette un regard favorable à cause de ses décisions ou de ses efforts, mais ce n'est pas le cas. Un théologien du nom de Stifler a dit « Le vouloir et le faire indiquent que nous possédons la grâce, mais ils n'en sont pas la cause. » Dieu exerce sa miséricorde parce qu'il est Dieu. Comment pouvons-nous lui demander des comptes? Je m'incline devant lui aujourd'hui. Versets 17 et 18. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Dieu dit qu'il a utilisé Pharaon. Vous pourriez dire avec raison, « Mais il n'était pas un élu !» Cependant, Dieu lui a donné une belle occasion de venir à lui. Pharaon aurait pu dire, « Je suis Pharaon, c'est moi qui décide en Égypte. Je rejette la requête de laisser partir le peuple hébreu. » Dieu dit, « Tu penses que tu ne le laisseras pas partir, mais mon peuple sortira d'Égypte. » C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Lorsque les Écritures affirment que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, cela signifie que Dieu a obligé Pharaon à prendre la décision qu'il avait résolue dans son cœur. Dieu l'a obligé à faire ce qu'il désirait faire. Personne qui n'a pas choisi l'enfer ne s'y retrouvera. Ceux qui sont en enfer ont choisi d'y aller. Vous prenez votre décision. Verset 19. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? C'est ainsi que raisonne l'homme naturel. Si Dieu a endurci le cœur de Pharaon, pourquoi le condamne-t-il? N'accomplissait-il pas la volonté de Dieu? Verset 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Dans les prochains versets, Paul va illustrer son point avec l'image d'un potier qui travaille l'argile. Dieu est le potier. Nous sommes la glace ou l'argile. Nous fûmes formés de la poussière de la terre. Il se souvient que nous sommes poussière. Le psaume 103, verset 14. Nous oublions parfois que nous sommes poussière. Verset 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? De la même glace, Dieu a fait un Moïse et il a fait un Pharaon. La glace n'est qu'un amas de boue, sans beauté aucune. Dans sa miséricorde, il a fait un vase d'honneur. Il a le droit d'en faire un pour un usage vil. Versets 22 et 24. Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi, nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Oui, chers amis, Dieu a le droit d'agir en fonction du mystère et de la majesté de sa souveraineté. Paul a déjà établi que Dieu a le droit d'agir en fonction du mystère et de la majesté de sa souveraineté. Maintenant, Paul montre que Dieu est patient même avec les vases de colère. Il ne les a pas formés pour la perdition, mais c'est la rébellion et le péché de la glace qui a formé les vases pour la perdition. Dieu aurait été juste en exerçant un jugement immédiatement, mais il n'a pas traité les vases comme étant de la glace sans vie, mais comme des créatures ayant un libre arbitre. Il leur a donné l'occasion de manifester toute inclinaison à obéir à Dieu. Quoique Dieu ait le péché et qu'il doit le juger de façon définitive, il exerce de la miséricorde envers les créatures qui pêchent. Paul suggère que les vases de colère soient la nation juive qui fut détruite en l'an 70. Jésus avait annoncé sa destruction, et il a pleuré sur la ville lorsqu'il a prié, « Père, pardonne-leur !» Rapporté par l'évangéliste Luc, chapitre 23, verset 34. Lorsque le jugement fut exercé en l'an 70, Dieu a sauvé un reste. Ce sont les vases de miséricorde. Et toi, qu'en est-il de ta vie? Dieu est prêt à te sauver maintenant, à faire de toi un vase d'honneur, un vase de miséricorde. Elle est là, mise à la portée de tous et chacun. Tu n'as qu'à tendre la main vers ce qu'il t'offre présentement, c'est-à-dire le pardon de tous tes péchés, la réconciliation, l'harmonie, la paix, l'assurance d'avoir une vie éternelle, c'est-à-dire une place avec lui pour l'éternité. Tu as un choix à faire. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission. Romains chapitre 9, verset 25 à chapitre 10, verset 10.
Merci beaucoup, Régent. On a reçu tellement de bons enseignements au cours de cette émission que j'ai de la difficulté à choisir celui pour lequel je pourrais donner une application pratique. Qu'est-ce que vous avez pensé quand Régent a mentionné qu'il arrive que nos politiciens fassent des erreurs de jugement et que malgré ça, ils se font réélire par des majorités solides et on ne met pas toujours en question leur jugement alors qu'on conteste celui de Dieu? Personnellement, ça me blesse quand je présente l'Évangile, la bonne nouvelle du salut par grâce à des gens qui se mettent à dire que Dieu est injuste pour une raison ou pour une autre. Qui sommes-nous pour contester les choix et les décisions de Dieu? J'ai bien aimé la remarque de Régent à ce sujet quand il a dit « Si vous n'aimez pas ce que Dieu fait, pourquoi ne pas partir de cet univers et vous en créer un? Ainsi, vous pourriez faire les lois. Tant que vous êtes dans l'univers de Dieu, vous devez accepter ses lois. » Et il a ajouté que l'homme doit s'incliner devant Dieu et dire « Il n'y a pas d'injustice en lui. » Qu'est-ce que vous avez pensé aussi quand Régent a dit que ce n'était pas parce qu'il était Régent que Dieu l'avait sauvé, mais parce que Dieu est Dieu. Il a fait un choix et Régent s'est incliné devant lui. Je trouve ça tellement beau. Je pense que dans notre petite chair humaine, on est tellement limité en comparaison avec Dieu qu'on a de la difficulté à comprendre à quel point Dieu est grand et à quel point on mériterait souvent qu'il nous écrase sous son petit doigt tellement notre comportement doit le mettre en colère. Mais heureusement, Dieu est parfait en amour et il aime ses enfants inconditionnellement. Mon ami, es-tu un enfant de Dieu? Est-ce que ton Créateur est devenu ton Père à un moment de ta vie? Il nous dit dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean, au verset 12 et 13, qu'à tous ceux qui ont reçu la parole, qui est Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mon ami, j'aimerais t'inviter à recevoir Jésus comme ton Sauveur, comme ton Seigneur. Un Seigneur, c'est un Maître. Jésus est le Maître par excellence. Et il peut diriger notre vie bien mieux que nous ne le pouvons nous-mêmes. Il frappe à la porte de ton cœur en ce moment. Et tu peux être certain qu'en Jésus, il n'y a aucune injustice. Il est écrit dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, verset 18, que Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Et il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Mon ami, nous sommes tous des injustes. Laisse Jésus te justifier. Il a payé cher pour le faire. Il est allé jusqu'à la mort de la croix, mais il est ressuscité glorieux. Et maintenant, c'est à toi qu'il veut donner la vie éternelle. Repens-toi de ton injustice, de tes péchés. Demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Il est encore temps aujourd'hui de le faire. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui que Jésus t'appelle, qu'il veut faire de toi un enfant de Dieu. Reçois-le dans ta vie. Repens-toi. Accepte Jésus pour ton Sauveur, pour ton Seigneur. Reçois Jésus, ce Sauveur merveilleux qui a donné sa vie pour toi.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Régent?
Mais qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, devons répondre à la question.
j'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu.
Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie.
Oui.
Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie.
Maintenant, nos auditeurs en bénéficient.
Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie.
C'est merveilleux.
Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures.
Ouais.
Des chrétiens évangéliques.
Oh là là.
Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie.
C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, via courriel.
www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. À demain.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.